Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Seul. C'est très démoralisant. Vous, vous avez votre mère.
Tu es complètement dans l'irréel.
Oui, mais ne peut pas te faire
un homme, s'il est pas
une femme, c'est autre chose. Mmh. Elle lui dit. Alors, nous sommes deux corps solitaires. Elle lui sourit tendrement.
De toute façon, moi, je
Wong Gorgé lui dit. Devrions-nous voir plus souvent? Ne sommes-nous pas adultes et libres? Nous pourrions nous voir, personne ne nous empêche de avoir envie de nous voir. Elle lui met sa cuisse contre la sienne. Après avoir bu une gorgée, elle lui dit, nous accompagner. J'habite Beauvoir Haussmann, pas près de Lewan ici.
J'ai l'impression que le temps passe à une vitesse.
Oui, je veux bien.
Tu as l'air énervé.
Ils sortent du café.
Tu t'es reposé.
Il est tout chaud.
C'est bizarre, c'est quand on a mal dormi.
Excité.
Non, c'est pas que j'ai mal dormi, c'est pas ça. Hein.
Dirige jusqu'à chez elle et lui dit, je croyais que vous étiez très intime avec le PDG. Elle lui dit, avec la famille, oui. J'ai sauvé le fils une fois. Il avait eu un accident de voiture. Mais juste ami, rien d'autre. D'ailleurs, je n'aime que les jeunes gens. Il lui dit, alors je n'ai pas de chance. Pourquoi? Vous êtes très jeune et beau garçon. Il lui dit, oh. Elle est arrivée devant son immeuble. J'y suis arrivée. Puisque vous êtes venu jusqu'ici. Venez. Il hésite. Et il sourit, lui dit. Vous ne regrettez pas. Et elle le prend par le bras. Et elle ouvre la porte de l'immeuble. Il entre. dans l'allée. Elle le mène à l'ascenseur. Arrivée à l'étage, elle va ouvrir la porte de son appartement. Elle ouvre, éclaire, entrée, silence. Elle a fermé la porte. Elle lui dit, c'est absolument vide. Aucun, pas un chat, rien. Il lui dit, c'est très joli et pas vide, bien meublé. Il voit à travers les portes ouvertes et lui dit, venez, allons au salon. Elle le mène au salon. Entrez. Il entre. Asseyez-vous. Sur le divan, ce sera mieux. Là, voilà. Et il s'est assis sur le divan. Et il demande, vous voulez boire un bonbon ? Oui, merci. Et va le lui chercher. Une bouteille et deux verres. Et fait le service. Tenez. Merci. Puis, s'assoit à côté de lui. Elle lui dit, oh, buvez votre verre. Je vais avoir autre chose à faire. Elle lui sourit. Il boit une gorgée. Et elle lui enlève le verre des mains qu'elle pose sur la table. Lui défait sa cravate. Lui déboutonne sa chemise. Puis lui débroussaille ses cheveux. Et je le fais tomber sur elle. Il est tout rouge et excité. Elle le prend dans ses bras et l'embrasse sur les lèvres. demi-heure plus tard, il se relève, essoufflé. Ses vêtements sont à terre, à côté de ceux de Judith. Elle reste allongée encore et lui dit « Tu veux prendre un bain ?» Il lui dit « Je n'ai pas le temps. » Et il s'habille. Se lève et sort de la pièce. Lui continue à s'habiller. Elle revient avec un peignoir de soie noire. Il a fini de s'habiller. Passe les mains sur ses cheveux, la regarde bien, la prend dans ses bras et lui dit « Je t'aime, je t'aime. » Elle lui dit « Oui. » Lui donne un baiser sur la joue et lui dit « Plus que l'enfant. » Et elle se dégage. Puis, prend sur la table basse son paquet de cigarettes et un briquet et elle allume une cigarette. C'est elle qui est l'homme et lui la femme. Elle lui dit, si tu veux, on peut se revoir. Donne-nous rendez-vous, disons, vers les galeries Lafayette. Dans la foule, on sera moins remarqué. Puis elle lui sourit et lui dit « Il faut que tu partes à cause de ta mère. » Et elle leur accompagne jusqu'à la sortie de son appartement. Il la prend dans ses bras et lui dit « Sois sage. » Elle l'embrasse, ouvre la porte. Ne t'occupe pas du bilan. Attends. Je te dirai ce qu'il faut faire. Il lui dit, mais il n'y a rien à faire. Il y a un trou. On a pris cette somme. Elle lui dit, tu es tellement moraliste, trop moraliste. Ça ne te portera pas chance. Allez, à demain. Et il s'en va. Elle reste seule dans l'appartement à réfléchir. Ils se voient plusieurs soirs chez elle. Il est de plus en plus pris d'elle, fou d'elle, mais reste intraitable pour ce qui est de son travail. mais il laisse le bilan en attente. Henri Cabasson entre chez sa mère le soir de plus en plus tard. Elle habite derrière le Panthéon et le lycée Henri IV. L'immeuble se trouve à côté de la piscine. Un vieil immeuble sans âge de 3 ou 4 étages. Elle habite au deuxième étage, porte gauche. Un grand F3 meublé de meubles 930. D'ailleurs, on a l'impression en entrant chez elle de se trouver à cette époque. Les plantes vertes, les napperons, le carillon, la vieille tapisserie. Dans le séjour, un vieux buffet, Henri III, avec dessus des photos de famille jaunies. Henri ouvre la porte avec sa clé. Il lui a donné le jour de ses 22 ans en lui disant qu'il était un homme maintenant. Il voit que le couloir est allumé et que sa mère est là, debout. Une petite femme, maigre, à cheveux blancs, habillée de noir. Il ferme la porte. Elle lui dit, ne fais donc pas tant de bruit, tu vas réveiller les voisins. C'est à cette heure que tu rentres. Il enlève son manteau. Il le met sur le porte-manteau. Elle lui demande, où étais-tu? Elle lui dit, peut-être. Elle lui coupe la parole. Tais-toi, tu vas mentir. Tu es allé chez une fille. Oui, ce n'est pas un drame. Je suis majeur et célibataire. Elle lui dit, ça dépend de quelle fille. C'est pas ce que tu crois. C'est une fille très bien et nous nous aimons. Tu vas te marier. Il est tout rouge. Je ne crois pas. Elle est plus riche que moi, ta mère lui dit, et plus vieille. Faut pas que tu la revoies. Elle veut jouer avec toi. C'est tout. Henri ne dit rien. Elle lui dit, il faut me le promettre. Je ne peux pas. Je l'aime, mère. Elle ouvre ses épaules. Va te coucher. Et il va dans sa chambre. Vieille chambre d'enfant, 1930. Il se déshabille. En se déshabillant, il se dit qu'il n'avait pas pensé au mariage, mais que peut-être. Il crie, attends, une minute. Vite, il met son pyjama. Entre. Elle entre. Elle lui dit, est-ce que tu te préserves? Henri lui dit, c'est une fille sérieuse qui ne croit pas. En es-tu sûr? Oui, mère. Et elle sort de la pièce. Lorsqu'il est chez Judith, dans son appartement, au salon, après avoir bu un verre, il lui dit « Écoute, il y a une chose que je pense sans arrêt depuis hier au soir. Puisque tu es libre, et moi aussi, pourquoi ne pas nous marier, puisque nous nous aimons ?» Hard, surprise, il lui dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Elle lui dit « Je ne sais pas. » Il lui dit « Comment tu ne sais pas ? Si tu m'aimes, tu dois le savoir. » Il lui dit « Aimer et se marier, ça fait deux. Tu sais, je suis très indépendante, moi. » Il lui dit « Puisque nous nous aimons, on se marie. Je ne te lâcherai pas, moi. » Elle lui dit « Nous verrons. » Il lui dit « Parlez de toi à ma mère. » Elle lui dit furieuse « Je t'avais dit de n'en parler à personne. » Il lui dit « Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous sommes libres, nous ne faisons rien de mal. » Elle lui dit « Tu es vraiment têtu, le plus têtu qui soit, que ce soit dans ton travail comme dans tes amours. Tu as dit mon nom à ta mère? Non. Et tu lui as dit que je travaillais dans le groupe? Non. » Elle soupire. Pour le moment, tu ne lui dis rien de plus. Et si tu lui dis quelque chose, je ne veux plus te voir. Tu as compris? Mais je ne comprends pas. Il lui dit, je veux préparer le terrain. Et puis, toi, tu as des difficultés avec ton histoire de bilan. Il lui dit, je peux le donner comme ça? Elle lui dit, surtout pas. Tu seras responsable et on pourra penser te suspecter de vol. Calme-toi et ne fais plus rien. Nous arrangerons les choses. Après, nous verrons. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit « Assez parlé. Viens. » Et elle le plaque contre lui. Elle se plaque contre lui. Lui se dégage un peu et lui dit « On dirait, c'est que tu agis comme si c'était toi qui étais coupable du vol. » Elle devient pâle et lui dit « Tu es complètement fou de penser à ça. Viens, je t'aime, viens. » Et elle lui caresse les fesses. Judith est dans son bureau. Elle soupire et se dit que cette histoire devient dangereuse. Et plus elle va de l'avant, plus elle s'enfonce. On sonne à la porte. Elle prend le téléphone pour voir sur l'écran. Oui? C'est le courrier, madame. Elle appuie sur le bouton vert. La secrétaire rentre. Bonjour, madame. Bonjour. Et elle va déposer le courrier. Merci. Elle sort. Judith dépouille le courrier. Elle voit une lettre qui lui semble intéressante. Elle soupire. Je suis sauvée. Lorsqu'elle revoit Henri, elle lui dit après l'amour qu'ils ont fait dans sa chambre, ils sont encore enlacés, elle lui dit « Tu sais ce qui me ferait plaisir ?»«
Non. »
« C'est de passer une fin de semaine ensemble, tous les deux, hors de Paris. »« J'en ai assez de cette ville, j'ai besoin d'air. »«
Tiens, si nous allions dans les Alpes, en Savoie, » Je connais un endroit charmant, au bord d'un lac, un hôtel. Tu connais le lac de Montrion ?
Il lui dit,
non.
Et je ne sais pas si ma mère, elle lui dit,
tu n'es plus un gosse,
non ? Bien, je me parlerai ce soir.
Elle lui dit, surtout ne parle pas de moi,
ni où nous allons. On ne sait jamais avec elle.
Elle voudra peut-être nous voir,
nous pouvoir pour nous surprendre.
Henri lui dit,
c'est pas son genre.
Elle lui dit, on ne sait jamais avec les mères.
Donne-moi ta réponse dans la journée à mon bureau.
Nous pourrons partir en fin de semaine.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.